7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, émission de société pour se parler chaque jour du nord au sud. Aujourd'hui, les élites noires en France, du plafond de verre au nouveau Black Power. Le Gotha Noir de France vient de sortir sa nouvelle édition qui répertorie ses élites intellectuelles issues des diasporas afro-antillaises. Peut-on parler d'ailleurs d'une nouvelle afro-génération? En quoi cherche-t-elle à se différencier de ses aînés? Quelles sont ses attentes, ses liens aussi avec le continent africain? On va en parler avec nos invités. Bonjour Guylaine Hiersault.
Bonjour.
Vous appartenez au club Efficience.
Tout à fait, oui.
En deux mots.
Je suis leur ambassadrice. Le club Efficience, c'est un club, comme vous l'avez bien indiqué, de la diaspora africaine et ultramarine. Et on essaye de mettre en avant l'excellence et se rappeler qu'il n'y a pas, même si on dénigre pas bien évidemment des sportifs et des chanteurs et des musiciens, mais il y a aussi
c'est toute une
diaspora.
Aussi, hein.
C'est aussi une forme d'élite, bien évidemment, mais c'est aussi la diaspora économique, des hommes et des femmes d'affaires, et qui réfléchissent et qui essayent aussi d'accompagner le développement du continent africain et aussi le lien avec les ultramarins.
Et
ce qui n'existe pas toujours.
Les ultramarins, c'est outre-mer, hein, donc les Antilles. Entre autres, vous éditez le Gotha Noir, 3e édition, c'est tous les 2 ans. Hein, le Gotha Noir, c'est plus qu'un annuaire. Et vous êtes également un chef d'entreprise. Vous avez effectué d'ailleurs une partie de votre carrière dans des multinationales. Et vous vous occupez aujourd'hui des questions sociales, environnementales qui se posent aux entreprises. La diversité, ça en fait partie même si vous n'aimez pas beaucoup ce mot-là.
Oui, je préfère parler de la lutte contre les discriminations et la diversité, effectivement, c'est tout le monde. Mais effectivement, j'ai travaillé beaucoup dans ce milieu des entreprises, nous en parlerons, et le lien avec le continent africain. Je rappellerai juste que j'ai parlé de diaspora et d'ultramarins, puisqu'il n'y a pas que les Antilles,
et bien
si
sûr.
Vous permettez.
La Réunion, etc. Mamadou Gueye, vous êtes ancien secrétaire général de SOS Racisme, aujourd'hui directeur de l'agence Nouvelle Cour. C'est une agence qui aide les jeunes diplômés en communication issus de la diversité. La communication, c'est un métier dont on dit souvent d'ailleurs qu'il faut un réseau. C'est précisément ce qui manque à ces jeunes diplômés, Mamadou.
Et très exactement, c'est malheureusement un milieu un peu fermé et ce n'est pas un hasard, comme la politique, comme les médias, comme tous les métiers qui racontent l'histoire nationale, il y a un peu une espèce de barrière à l'entrée, et avec Nouvelle Cour et les jeunes que nous recrutons, on essaye d'ouvrir des fenêtres quand les portes sont fermées.
Ouais, et le Gotha Noir, là, cet annuaire-là, ça peut aider éventuellement, contacter les parrains du Gotha Noir.
Cet annuaire peut aider, mais on a des soutiens qui ne sont pas non plus dans le Gotha. C'est plus l'idée qu'une société ouverte est bénéfique à tous.
Également parmi nous, Ferdinand Ezembe. Bonjour Ferdinand.
Bonjour.
Vous êtes psychologue. Votre dernier ouvrage, Les adolescents noirs en France, des jeunes en quête d'identité. Et vous dirigez l'association des psychologues africains installés à Paris, qui s'appelle Afrique Conseil. Et quant à vous, les voisins, les voisines, où que vous soyez, évidemment, vous pouvez nous appeler pour dialoguer avec nos invités. Évidemment, diaspora noire en région parisienne, bienvenue. 33 1 84 22 71 71. C'est le numéro du standard qui vous tend les bras. Pour nos auditeurs en Europe qui ont changé d'heure ce week-end, vous découvrez peut-être 7 milliards de voisins à cette heure-là, chez vous. Mais sachez que le rendez-vous des 7 milliards de voisins, c'est toute l'année à 10h10, temps universel, en première diffusion. Je vous lis quelques messages parvenus sur les réseaux sociaux. Un internaute en région parisienne avec des origines guinéennes. Parler des élites noires en France, c'est comme chercher les peuplades vikings dans le Sahel. Sambank est à Lomé, au Togo. Les élites noires en Occident ont des idées rétrogrades. Quand elles reviennent en Afrique, elles nous volent tout pour aller développer leur petite affaire en Europe. C'est son point de vue. Inès à Cotonou, au Bénin. En parlant d'élites noires, que pensez-vous de la possibilité d'un scénario à la Barack Obama en France? Vos commentaires?
Oui, je comprends tout à fait un peu les auditeurs, parce que parler d'élite, le problème, c'est qu'on soit obligé de parler d'élite. Il faut qu'on puisse parler
Vous entendez le petit ricanement, c'est
voilà,
ça?
Voilà, exactement. Et je pense que c'est important, c'est que toute la population noire ou marketée noire, comme on dit, parce que puisse être présentée dans toutes les instances. Et je comprends tout à fait, moi-même qui suis très proche des politiques, c'est un vrai problème aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas une vraie représentation, d'ailleurs, que ce soit les ultramarins ou les originaires de différents continents. Et vous savez, même pareil pour l'Asie, pour partout.
Mamadou Gueye,
je trouve qu'il pose exactement la question que nous devons nous poser, à savoir à quoi sert une élite, finalement. Et une élite ne se déclare pas élite, elle doit être reconnue, et elle doit être reconnue pour ce qu'elle apporte au groupe dont elle est l'avant-garde, l'avant-garde éclairée. Et il est vrai qu'aujourd'hui, de par le monde, et y compris en France, les élites sont un peu en crise. On se demande à quoi elles servent. Le monde un peu perd la boussole et ils ne sont plus capables de donner une direction. Et les élites noires, malheureusement, ne font pas exception à cette remise en question des élites, justement.
Ferdinand Ezembe, vos réactions par rapport aux commentaires des internautes, là ?
Oui, je crois que tout le monde a besoin d'élites. Toutes les sociétés ont besoin des élites. Et moi, je m'occupe beaucoup d'adolescents. Ils ont besoin de personnes vers lesquelles ils peuvent se projeter. Et nous, notre combat en France, dans d'autres associations, dont celle de promotion de la diversité, où j'étais président, on s'est battu pour la visibilité. Parce qu'en France, les Noirs souffraient de l'invisibilité. Et notre combat était pour la visibilité des Noirs. Donc, on a besoin d'élites, tout le monde en a besoin, parce que personne ne grandit sans de modèles auxquels s'identifier.
Alors justement, en couverture du Gotha noir, qui est un bottin mondain, très bien relié, etc., on peut lire « Œuvre collective, démentir les préjugés par l'exemple ». Et vous, les voisins et les voisines, si vous êtes issus de la diaspora noire en France, n'attendez pas la fin de l'émission pour réagir. Que pensez-vous donc de cette façon de répertorier les élites noires en France? Vous réagissez au 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Guylaine Yersault, alors pourquoi donc un Gotha noir de France?
Mais
ça vous énerve qu'on vous demande de justifier d'ailleurs ou pas?
Oui, alors vous le savez, alors je rappelle quand même que le Gotha noir fait partie des actions du club Efficience, hein, donc c'est pour montrer l'excellence, comme on l'a déjà dit, de la diaspora africaine et ultramarine. On a estimé, alors d'abord je rappelle quand même, c'est important, la publication du Gotha noir permet de, donc les financements que nous récupérons permet aussi de financer des bourses d'excellence pour des jeunes de quartiers difficiles. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'être noirs, je le spécifie, c'est tout jeune des quartiers difficiles. Donc il y a le Gotha noir, il y a, je rappelle, des dîners d'affaires, on est sur l'ingénierie économique et sociale, on organise aussi un dîner de gala d'ailleurs le 29 novembre pour aussi permettre d'aider les jeunes en difficulté ou dans certains quartiers qui ont toutes les capacités, et comme disait très justement Ferdinand, c'est aussi avoir des exemples. Et il y a beaucoup de jeunes
La valeur du modèle
et montrer que c'est possible, qu'ils peuvent y accéder. Je rappelle que Elie Mamkambe, quand il a créé le club Efficience et donc voulu l'édition du Gotha noir,
qui est dentiste de profession,
il y a un petit enfant qui vient dans son cabinet et ce petit enfant dit « Bah maman, tu devais m'amener chez le chirurgien dentiste ». Et Elie dit « Mais tu es chez le chirurgien dentiste ?» Et le petit enfant dit « Mais il est où ?» Il lui dit « C'est moi ». Et c'est quand Elie Mamkambe, donc bien sûr, comme vous l'avez compris, il vient du Cameroun, a constaté que cet enfant qui était, en plus je le rappelle, je le précise, un petit enfant noir, n'a pas pu se projeter, n'a pas pu réaliser que le docteur Elie Mamkambe était le chirurgien. C'est là qu'il s'est dit « Il y a vraiment beaucoup de choses à faire ». Donc ça a été la création, la naissance du club Efficience pour qu'on puisse, comme vous le disiez très bien, très justement Ferdinand, avoir une représentation. Moi je disais qu'en fait, il faudrait justement qu'on parle pas spécifiquement de l'élite. Et je rappelle quand même que dans le Gotha noir, vous pouvez spécifier que c'est de l'élite en termes de catégorie socio-professionnelle, mais c'est aussi la représentation, la diffusion dans la société française de différents. Vous avez des entrepreneurs, vous avez des chanteurs, vous avez des musiciens, mais vous avez beaucoup d'entrepreneurs, vous avez des chercheurs, et voilà. Et des médecins.
Le point commun de tous ceux qui figurent dans cet annuaire, c'est la couleur de la peau, hein, ça suffit.
Pas spécifiquement, je rappelle que vous pouvez être noir, mais vous n'avez pas par exemple Myriam Cotias, qui est présidente du comité national contre la lutte contre l'esclavage, est comme moi métisse, et elle est sortie blanche. Moi j'ai des nièces, et bon. Donc ça veut dire que c'est pas spécifiquement, bien évidemment on essaie qu'il y ait une majorité de représentation, oui, mais on ferait l'erreur de vouloir aussi spécifier par rapport à seulement la couleur de la peau.
Ce Gotha noir, c'est majoritairement des gens qui sont nés en France, de parents arrivés pour des études ou pour travailler, immigration économique ou
pas spécifiquement. Vous avez des enfants, des personnes, puisque en plus, comme vous le constaterez, il y a plusieurs générations, hein, vous avez des personnes qui sont nées en France et qui sont d'origine africaine ou d'origine ultramarine, et vous avez effectivement aussi un certain nombre, de, je ne peux pas vous dire le pourcentage, mais de personnes qui sont nées en Afrique et ont venu faire leurs études, comme c'est le docteur Elimane Kobe, qui est chirurgien dentiste ici, ils ont fait leurs études en Afrique ou en France, et ils sont venus. Donc c'est des personnes qui ont la chance, qui ont eu la chance d'être installées, et ils se disent, il faut qu'on se tienne la main pour montrer que c'est possible, c'est agir aujourd'hui pour
au nom d'une communauté,
mais pas au sens communautarisme, hein, attention.
On va en reparler, Mamadou Gueye. Est-ce que selon vous, alors vous êtes un trentenaire, hein, bientôt quarantenaire. Est-ce qu'il y a une évolution d'une génération à l'autre dans la façon de penser sa place dans la société française, selon vous?
Très clairement, d'abord il y a un distinguo entre ceux qui sont nés en Afrique et ceux qui sont nés sur le territoire.
Vous, votre cas, c'est...
Moi je suis né au Sénégal et je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Du coup, je pense, en ayant fréquenté d'autres jeunes originaires d'Afrique mais nés sur le territoire, avoir eu la fameuse question de la crise identitaire de manière un peu moins profonde. Et donc, selon le rapport au continent, bien évidemment que cette question ne représente pas la même réalité. Et je ne serais pas étonné, on n'a pas forcément un sondage précis là-dessus, mais je ne serais pas étonné de voir beaucoup de jeunes issus de l'immigration africaine nés sur le territoire national ne pas se reconnaître tout particulièrement comme appartenant à une communauté noire, africaine ou autre. Parce qu'ils sont nés sur le territoire, se définissent avant tout comme français, avec une complexité selon les sphères dans lesquelles ils peuvent se trouver sur la question de leur appartenance. Donc, il y a effectivement...
Si ce n'est que même s'ils ne se reconnaissent pas, parce qu'ils sont avant tout français, il y a le fait qu'ils sont issus de la minorité la plus visible, hein, à l'œil nu.
Alors,
finalement,
il y a cette réalité, et puis il y a aussi une autre réalité, qui est que moi j'ai constaté lorsque j'étais chez OSS Racisme, c'est que première, deuxième ou troisième génération, ils se retrouvent malheureusement tous potentiellement un jour victimes de discrimination, à des niveaux différents, avec une violence différente, selon qu'on est très diplômé, le plafond de verre sera particulièrement difficile à casser, ou qu'on est en entrée de vie professionnelle. Donc, il y aura toujours ces réalités-là qui feront une différence entre une génération et une autre.
Les voisins, si vous êtes issus de la diaspora noire en région parisienne et que vous nous écoutez en direct pour la première diffusion de 7 milliards de voisins, n'attendez pas la fin de l'émission, vous pouvez réagir. Hein. Que pensez-vous finalement du fait de regrouper les élites noires à l'intérieur d'un annuaire, mais aussi de clubs, etc., pour une forme d'entraide et développer une vision aussi de l'avenir? Vous pouvez nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Et les autres voisins, évidemment, vous êtes aussi les bienvenus si vous avez des réactions intéressante. On en reparle juste après Aloe Black. I believe every lie that I ever told, paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold. This is my world. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I got all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier. The Man, Aloe Black chez 7 milliards de voisins sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle des élites noires en France aujourd'hui. Ferdinand Ezembe, votre ouvrage « Les adolescents noirs en France ». Alors rien que le titre, Ferdinand, les adolescents noirs, le genre de titre qu'on lit plutôt aux États-Unis, parce que c'est assez cash quand même, où justement les statistiques ethniques sont autorisées dans les pays anglo-saxons, et même ça constitue un pilier de l'action politique en faveur des minorités, même si avec les limites que l'on sait, en France c'est pas possible. Il n'y a pas beaucoup de livres qui titrent sur les noirs.
Oui, disons que... j'aime bien l'expression, c'était Louis Georges Tin qui disait, faut appeler un chat un chat. Mmh. Les gens, quand ils sont dans la rue, sont appelés noirs. Ils se reconnaissent eux-mêmes comme noirs. Donc, que les sciences sociales ne veulent pas les définir comme noirs, c'est pas un problème, mais ils sont eux-mêmes noirs. Et quand il y a des problèmes, on les désigne comme noirs. Donc c'est pour ça que j'ai appelé un chat un chat, et donc j'ai appelé ces jeunes adolescents noirs.
Justement, vous suivez des familles, des enfants, des adolescents noirs depuis quoi? Plus de 20 ans maintenant,
plus de 20 ans,
à l'association Afrique Conseil.
Mmh.
Quels sont aujourd'hui les principaux questionnements de ces jeunes issus de la minorité la plus visible?
Disons que la question identitaire reste quand même très importante. On a deux catégories de jeunes. On a des jeunes qui sont nés en Afrique, qui viennent rejoindre leurs parents en France. Donc ceux-là, ils sont clairs dans leur tête, ils sont noirs, ils sont africains. Et
ouais,
tout.
C'est le cas de Mamadou, voilà, qui nous racontait son parcours tout à l'heure.
Mais parce qu'ils n'ont pas vécu la discrimination. Mmh. Donc ils vivent dans des pays majoritairement noirs, et là-bas, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont noirs. Donc, quand ils arrivent en France, ils découvrent qu'ils sont noirs. Quant à ceux qui sont nés en France, c'est un sentiment de discrimination qu'ils ont dès l'école primaire de leur naissance, où on leur pose la question de l'étrangeté. Tu viens d'où?
Même dans les quartiers ultra métissés en Seine-Saint-Denis, où la norme, c'est le métissage.
Oui.
C'est les dégradés de couleur de
peau.
Oui,
non, mais il y a deux types de rapports. Dans le quartier, c'est la norme, mais à l'école, ils ont des anciens qui sont des blancs majoritairement, et qui leur renvoient à leur étrangeté en disant, mais tu viens d'où? Parle-moi de ton pays. Et donc les jeunes disent, mais je suis né à Saint-Denis, on dit parle-moi de mon pays. Donc les institutions leur renvoient systématiquement au fait qu'un noir ne peut pas être français. Et donc même quand moi j'ai travaillé avec des gamins, dans l'histoire, à l'école, il n'y a pas quelque chose qui leur rappelle qu'ils font partie de l'histoire française. Et donc ils ont ce sentiment pendant longtemps qu'ils n'appartiennent pas à l'histoire nationale. Et c'est tout le combat qui a été et qu'on a mené avec d'autres associations pour enseigner l'esclavage, pour enseigner le colonialisme, pour enseigner l'histoire de l'Afrique et de montrer qu'ils font partie de l'histoire des anciens combattants. Moi, j'ai été dans une association où on a systématiquement fait chaque année un événement pour rappeler la contribution des combattants noirs à l'histoire de France. Donc, c'est comme ça qu'on intègre ces jeunes dans la société française.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans les familles que vous recevez, vous sentez une tension perpétuelle entre l'école et ces familles? Notamment un soupçon des enseignants sur ces familles qui pèsent en permanence sur leurs épaules. Ils n'élèvent pas leurs enfants comme il faudrait qu'ils soient élevés pour qu'ils réussissent dans la norme française.
Ah ben oui, alors... Il y a beaucoup de préjugés. Hier, j'étais avec une dame qui est ingénieure en informatique et dont le fils est premier de sa classe. Elle accompagne son enfant à l'école et on lui dit, tiens, c'est votre mari qui s'occupe de votre enfant parce qu'il est très brillant à l'école. La dame dit, oui, c'est mon mari puisqu'il arrive tous les jours à 21h. Donc vous voyez, même dans la représentation de l'enseignante, une dame noire ne peut pas s'occuper de son enfant pour qu'il soit brillant à l'école. Et c'est à ça qu'on a affaire, de toutes ces questions qu'il faut déconstruire.
Mamadou Gueye ?
Oui, je rebondis parce que ça rentre en collusion avec une autre notion, qui est une question qui se pose à la fois aux Noirs, mais à l'ensemble de la communauté française, c'est qu'est-ce que ça veut dire être français ?
Voilà, merci.
Il y a cette question profonde, et en réalité, je pense que dans la difficulté à se positionner sur le plan identitaire, il y a aussi le fait que quand on dit être français, ça veut pas forcément signifier qu'on peut être français et noir.
Alors on va y revenir, vous restez avec nous tous les trois, suite de nos discussions juste après le flash. On parle des élites noires en France avec la troisième édition du fameux Gotha Noir. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette démarche de regrouper les élites qui ont comme point commun la couleur de la peau? On se retrouve juste
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. On parle des élites noires en France aujourd'hui chez 7 milliards de voisins, du plafond de verre au nouveau Black Power, avec la troisième édition du Gotha Noir, publiée par le club Efficience. Combien de noms d'ailleurs répertoriés dans cet annuaire, Guylaine Yerso?
À peu près cette année 300. Et je rappelle que...
Il n'y a pas toutes les élites, rassurons ceux qui n'y seraient pas.
Je vous dis, bon, l'élite, on est obligé d'utiliser ce terme pour la valorisation, mais c'est...
Ah bah, ça s'appelle Gotha quand
le
même.
Gotha, hein, donc le Gotha, c'est mettre
le
en avant.
Mondain.
Mettre, je préfère parler d'excellence. On préfère parler d'excellence. Et ni d'exemplarité, mais d'excellence, c'est un bon terme. 300, et les autres années, donc il y a eu deux tiers qui sont des nouvelles personnes par rapport aux deux précédents Gotha, voilà. Mais c'est vrai que ça ne représente pas toute l'élite, si vous voulez, ou toute l'excellence.
En tout cas, vous appartenez au Club Efficience et vous êtes l'une des éditrices de ce fameux Gotha Noir, œuvre collective démentir les préjugés par l'exemple. C'est ce qu'on peut lire sur la couverture. Ferdinand Ezembe, vous êtes psychologue, votre dernier ouvrage, Les adolescents noirs en France, et Mamadou Gueye, directeur de l'agence Nouvelle Cour, qui aide les jeunes diplômés en communication issus de la diversité à trouver leur place au sein du monde professionnel. Question évidemment pour le Gotha Noir de France, comment s'unir sur le modèle des Noirs américains sans risquer le communautarisme? Comment crever le plafond de verre dans un pays qui interdit les statistiques ethniques au nom du modèle républicain? Voilà, c'est le genre de questions sur lesquelles vous planchez lorsque vous vous réunissez tous. Et vous, les voisins, les voisines, que pensez-vous de la démarche du Gotha Noir?
C'est
lapsus révélateur. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un jeune Henrik. Bonjour Henrik.
Bonjour Emmanuel.
Henri, vous avez 17 ans, vous êtes lycéen, vous êtes en région parisienne, vous êtes à Brétigny. Alors,
oui.
Vous êtes né en France, je vous pose la question directe. Hein.
Non, je suis pas né en France, je suis arrivé en France quand j'avais 13 ans, c'est-à-dire il y a 4 ans passés. Oui.
On vous écoute, Henri.
Je suis pas né en France, je suis né en République démocratique du Congo. Je suis arrivé en France il y a 4 ans passés, quand j'avais 13 ans.
Et alors aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, pardon?
Oui, aujourd'hui, donc, comment vous vous situez par rapport à cette problématique?
Ouais, bon, moi je pense que sur le plan compétences, vraiment c'est la méritocratie qui gouverne. Il n'y a plus vraiment une grande différence entre des Noirs et des Blancs. Par exemple, j'ai remarqué qu'ici en France, on trouve aussi bien des Noirs que des Blancs dans des grandes entreprises. Cela a été favorisé par l'accès à l'éducation des jeunes noirs. Donc souvent, je voyais avant, nos parents, nos grands-parents venaient en Europe juste pour trouver des petits jobs, nourrir la famille, rester au bled en Afrique. Mais aujourd'hui, la réalité est bien différente. Nous, les jeunes, on vit très loin, obtenir des grands diplômes ici en France, travailler dans des grandes sociétés et parfois aider notre pays, parfois en retournant en Afrique et tout. Par exemple, personnellement.
Ouais, comment vous vous projetez justement vers l'avenir par rapport à votre continent d'origine?
Oui, par exemple, moi je sais que quand j'aurai mon bac, je ferai des études universitaires, des très bonnes études. J'aurai de l'expérience professionnelle acquise en Europe, évidemment. Après, je pourrais peut-être retourner en Afrique pour pouvoir apporter mes compétences.
Vous êtes hyper confiant, en fait, hein, bien dans vos baskets, Henri.
Je suis très confiant. Oui, je suis très confiant.
Mais alors, je crois que vous avez un grand frère qui est chef d'entreprise en France.
J'ai un grand frère, celui qui vient juste avant moi. Il a créé sa société des transports et logistiques ici en France.
Ouais, et ça marche bien.
Ça marche hyper bien. Ça marche très bien pour lui. Il a des employés blancs, noirs.
Oui.
Ouais.
C'est la réussite de votre grand frère qui vous donne confiance ou pas, Henrik?
Pas forcément de mon grand frère, parce que je connais plein d'autres personnes qui sont dans le même cas.
Et vos parents, quel discours tiennent-ils? Ils sont en France ou vous êtes venu tout seul, Henrik?
Moi, je suis venu tout seul. Mes parents, par exemple, mon père, quand il a fini ses études ici en France, il est retourné en Afrique et aujourd'hui, il est professeur à l'université en Afrique.
Vous souhaitez réagir?
Oui, moi, je voudrais réagir et je rejoins votre propos et peut-être juste de dire 10, un point.
17 ans, Henrik, hein, quand même.
Bravo. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. La situation a énormément évolué. Moi-même, j'ai fait des études supérieures. Mais le fait de dire qu'il reste des discriminations ne veut pas dire que la situation n'a pas évolué. Ça reste une réalité. à laquelle beaucoup de personnes sont confrontées. Il y a des discriminations qui sont très subtiles, très difficiles à mettre à jour. C'est pas juste le fait de trouver un emploi, mais c'est d'évoluer dans son poste, de rejoindre des conseils d'administration d'entreprise. Donc, faut pas forcément opposer les deux. Des choses ont énormément évolué et rester positif, confiant comme vous l'êtes, mais pointons les points qui restent encore à travailler.
Guylaine ?
Oui, bravo Henrik, mais je suis un peu en accord avec ce que vous dites, tout en étant très réaliste. Moi-même, ayant travaillé dans un grand groupe, j'ai vu aussi la réalité. C'est vrai que c'est pas pareil par rapport aux pays anglo-saxons, mais je côtoie tous les jours énormément d'Africains ou d'ultramarins de tous bords dans les entreprises, dans différents mondes. Simplement, ce qu'il faut avoir confiance, c'est qu'on est en France, on a un vrai problème, et c'est pas lié seulement spécifiquement pour les noirs ou les jaunes ou les verts. Je dirais, on est dans l'entre-soi, et c'est ça qu'il faut vraiment.
Mais c'est d'abord un entre-soi social.
Hein. Un entre-soi social, mais bien, social par réseau.
Les diplômés des grandes écoles restent ensemble.
C'est éclaté ça. Alors voilà, les diplômés des grandes écoles. Mais je vous signale aussi que si vous faites un tour, il y a aussi beaucoup de diplômés des grandes écoles, des NARC et ceci qui viennent aussi, qui sont de l'élite noire. L'important, c'est de s'ouvrir quel que soit le monde d'où on vient. Et d'où l'on vient, pardon, excusez-moi. Mais ce qui est important, c'est que le monde de l'entreprise, vous regarderez le président de Prudential à Londres, c'est un Ivoirien. Voilà. Et il y a plein d'exemples.
Au Sénégal.
Et qui n'est pas président en France.
Ouais. Et qui n'est pas.
Et qui a travaillé longtemps en France.
Oui. Non, mais
donc je pense qu'il faut déconstruire
qui
raconte tout ce qu'il a vécu en France.
Nous sommes tout à fait d'accord. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que dit Henrik, effectivement, il y a eu toute une histoire. Comme disait mon père, moi j'ai été accueilli. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment accueilli. Mais l'important, c'est justement de ce côté un peu positif, optimiste, et en disant on est dans le tout monde et de s'ouvrir au tout monde. C'est pareil. Il ne convient pas aussi que l'élite noire se ferme et dise c'est pas possible. Comme on dit dans le club Efficience, c'est possible, agissons pour réussir, agissons pour être dans l'excellence, quelle que soit l'excellence, je le dis bien, quelle que soit l'excellence, mais dans le domaine artistique, partout.
Alors, Henri, comment vous réagissez justement au fait qu'un club avec des Noirs de France se regroupe pour éditer un annuaire de l'élite noire ? Vous semblez très confiant dans l'avenir. Est-ce que finalement, ce problème-là, vous y avez songé avant ? Et est-ce que vous jugez cette démarche pertinente, Henri ?
Oui, moi, je pense qu'elle est vraiment pertinente parce que comme on dit souvent, avant que certaines personnes puissent vous aider, commencez d'abord par vous aider vous-même. Donc moi, je pense que si les Noirs ont décidé de se regrouper quelque part dans un certain truc, je pense que c'est une très bonne idée pour pouvoir se promouvoir. Parce que s'ils ne le font pas, personne ne le fera à leur place.
Et vous n'avez pas peur de la démarche qui est souvent taxée de communautarisme ?
Pas du tout. Je n'ai pas du tout peur, non.
Merci Henrik. Alors on a pas mal d'appels qui nous parviennent au standard. Merci beaucoup pour votre témoignage. 17 ans à Brétigny, lycéen, venu de République démocratique du Congo. On accueille Cher qui est à Paris. Bonjour Cher.
Bonjour, je vous appelle pour intervenir sur l'émission en fait.
On vous écoute,
D'accord, je voudrais mettre l'accent sur un élément que je pense crucial, qui est la compréhension des codes sociaux dans cette République. Parce que la France est un pays très conservateur, où on ne vous accepte pas au départ, mais une fois que vous faites l'épreuve, vous êtes dans le moule. Et que l'éducation est un point important pour entrer dans ce moule. Parce que ça permet de comprendre le mode de fonctionnement sociétal dans l'environnement duquel les gens vivent.
Cher, alors moi je vois, Cher, sur votre fiche que vous avez 50 ans, vous êtes gérant d'une entreprise. Est-ce que vous avez justement le sentiment d'avoir réussi parce que vous êtes rentré dans le moule
pour reprendre vos propos? Oui, j'ai le sentiment d'avoir réussi j'ai le sentiment d'avoir réussi pour quelque chose de très simple. C'est que culturellement, je comprenais la culture dans laquelle je vivais. D'une part. D'autre part, j'ai pu, grâce à mon éducation et l'ouverture d'esprit de mes parents sur des études cohérentes, et quatrièmement, me permettre de me projeter dans cette société où les décideurs ne sont pas épidermiquement comme moi, mais peuvent être intellectuellement comme moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire abstraction de la différence de couleur vers laquelle on va vous ramener tout le temps. Juste peut-être que pour vous mettre en difficulté, ou que la société est conservatrice, ou que, bon, on va vous amener vers quelque chose qui vous mette mal à l'aise pour que vous n'évoluiez pas. Mais il faut se placer au-dessus. Et c'est par rapport à ça, je pense que les études, l'université, les études supérieures est un élément qui est très important.
Ouais, voire déterminant, Ferdinand Ezembe. Les codes sociaux, les codes d'éducation, Ferdinand Ezembe, psychologue,
Afrique Conseil. Moi, je pense qu'il faut arrêter ce discours sur les codes sociaux, parce que je connais des énarques, des normaliens, des polytechniciens, des centraliens qui ont vécu la discrimination en entreprise, alors qu'ils ont fait tous les parcours de l'élite républicaine en France. Donc, ce discours-là qui tient à dire qu'il faut connaître les codes sociaux, on les connaît. Moi, je connais tellement de diplômés de grandes écoles et subsistent. Et la discrimination, c'est parce qu'ils sont noirs. Il faut pas l'idée n'est pas de victimiser les gens.
D'accord, pas d'accord, là.
Il faut pas victimiser. Attendez,
je peux terminer. Comme je dis,
Je
pense qu'on n'est pas là pour la victimisation. Moi, je ne suis pas une victime. J'ai fait des études en France. J'ai beaucoup de copains qui ont fait des grandes écoles en France et qui vous parlent du vécu de leur quotidien, qui arrive dans l'immeuble et on lui dit, monsieur, donne-moi votre carte pour entrer. Il dit, mais c'est moi l'ingénieur. Donc, ils connaissent, ils sont en costume cravate au quotidien. Ils parlent bien le français. Ils ont fait central. Ils ont quand même des discriminations. Donc, il faut quand même reconnaître qu'il y a une réalité. C'est pas en la cachant, en croyant que tout va bien. Il faut reconnaître les codes sociaux qu'on réussit.
Alors, attendez, cher, je vais réagir et après, Guylaine Yerso. Oui, cher.
Ferdinand, je ne dis pas le contraire de Ferdinand.
Merci.
Je dis que ce que Ferdinand dit existe. Mais qu'à un moment donné, c'est à nous,
bien sûr,
par rapport à notre propre caractère, par rapport à notre propre personnalité, par rapport à notre propre déterminisme, d'aller vers, vers l'avant.
Ouais,
c'est-à-dire se placer au-dessus de ça.
Guylaine Yerso,
je suis en accord avec ce que dit Cher. Justement, si on a créé le Gotha Noir et si on a créé le Club Émissifiance, on sait très bien, d'une part, on voulait mettre en avant la diaspora et tout ça, on sait très bien qu'il y a des discriminations, on ne le nie pas. Mais vous allez aussi dans certains pays africains, il y a des discriminations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de discrimination, simplement le fait de dire ce qu'on est, tel qu'on est, comme moi je veux dire, ça fait 40 ans, j'étais dans un grand groupe, j'étais en cabinet ministériel, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Simplement, si vous affirmez tel que vous êtes, il est important que les personnes noires, blancs, jaunes, on doit s'affirmer tel qu'on est, on doit reconnaître son histoire et de dire qu'on vit dans une société, dans le tout monde. Mais l'être humain n'est pas forcément bon et toujours, c'est comme la nature, mais simplement, il faut connaître. Moi, je n'aime pas peut-être pas connaître les codes, mais connaître l'environnement dans lequel nous sommes et surtout, et se valoriser par rapport à ce, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes. Et se connaître tel. C'est dire, connais-toi toi-même, voilà.
Mamadou Gaye.
Moi, ça me rappelle une question qu'on m'a souvent posée entre l'âge de 10 ans et de 25 ans. On m'a demandé si je préférais le Sénégal ou la France, qui est la question la plus bête, excusez-moi l'expression, que l'on m'est toujours posée. On n'a pas à choisir entre un pays et un autre. On est une identité qui peut être plurielle. Et on n'a pas à choisir entre avoir un job et singer les codes d'un milieu. Et parfois, ils sont pas forcément enviables. Voilà, moi, je parle du secteur de la communication. Des fois, il y a des codes, bon. Donc, on n'a pas forcément, et c'est ça la question qui est posée, c'est la capacité de la communauté nationale à reconnaître une particularité.
C'est ça.
Une particularité d'un individu qui est effectivement son histoire, de fait sa couleur de peau, et puis peut-être des potentialités, peut-être une sensibilité qui va apporter quelque chose de plus à une entreprise. Si je prends le cas du secteur de la communication, nous travaillons par exemple pour un client qui est lié à l'INPES sur la question de la prévention santé. Le fait d'être issu de pays africains me donne une sensibilité, une compréhension d'une certaine cible qui va être un complément dans une démarche de communication, de compréhension de cible de communication. Donc, je reviens sur ce que disait Cher. On ne doit pas avoir à choisir, Cher, entre singer des codes existants et ce que nous sommes. On ne devrait pas avoir.
On ne devrait pas.
Ceci ne fait pas, et c'est ce que je dis aux jeunes avec qui je travaille, on ne doit pas forcément pour autant être imbécile. Comme m'a dit ma grand-mère, juste je termine, Cher, comme m'a dit ma grand-mère en venant en France, quand tu vas dans un pays et que les gens marchent avec un pied, replie ton deuxième pied et marche avec un pied. Donc, on peut être intelligent, intégrer ces codes, mais on ne doit pas se changer et
nous
devenir quelqu'un d'autre.
Faire battre, ouais.
Cher,
ce que monsieur Gay dit est tellement vrai que nous nous retrouvons dans un environnement social où les gens qu'on rencontre ne connaissent pas toute notre histoire et nos capacités. Mmh.
Juste.
Et donc, il n'y a qu'à partir de là où ce mixage peut se faire pour leur faire part de ce que nous sommes et de ce que nous savons. Et ils vont le respecter dans ce que nous sommes et ce que nous savons. Mais à condition qu'il y ait la réussite derrière.
Alors, il y a la question de la réussite, mais tout à l'heure, on l'a dit, il y a la question de l'éducation. Moi, je me souviens, la première fois, juste très vite, la première fois que j'ai vraiment amené le Sénégal en France, c'était en classe de musique au collège. Un prof m'a dit « Est-ce que vous pouvez nous présenter un titre, une musique ?» Et j'ai ramené une chanson de Youssou N'Dour. Je devais avoir quelque chose comme 13 ans. C'est la première
vous
fois
étiez
que
j'ai 3 ans en France.
Ça faisait que 3 ans que j'étais en France et c'est la première fois que j'ai ramené une partie de ma culture à l'école, partie de ce que j'étais, et ça fait partie des actes fondateurs de mon histoire avec la France et en France.
On va remercier Cher parce qu'il y a d'autres auditeurs, je pense, qui voudraient intervenir, mais justement à propos de l'éducation, parce que là, on est quand même dans un pays qui est obsédé par la réussite de l'éducation, la réussite scolaire, c'est quand même ça qui ouvre les clés pour tout le monde, hein, quel que soit quand même le milieu dont on est issu, si on n'a pas son bac, même si on vient de la bourgeoisie, on pourra éventuellement s'en sortir, mais c'est quand même pas facile. Ferdinand et Zembe, vous, depuis plus de 20 ans que vous consultez Afrique Conseil, que vous voyez défiler des familles africaines, et pas seulement d'ailleurs, mais que vous travaillez avec des enfants, avec des adolescents noirs, à quoi vous attribuez la réussite scolaire de ceux pour qui il n'y a pas de problème scolaire ?
Il y a deux facteurs. Il y a d'abord le facteur environnement. En France, la réussite scolaire dépend énormément du secteur où vous vous trouvez. Vous êtes en zone urbaine sensible, avec des écoles de très faible niveau, vous n'allez pas réussir. Vous êtes dans une bonne école, dans un bon quartier, avec des bons anciens, vous réussissez. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur qu'on ne dit pas suffisamment, c'est quand même que ceux qui réussissent en France, il y a le background des parents, c'est-à-dire que des parents qui
l'histoire
ont fait
de la famille.
L'histoire de la famille où les parents ont fait des études. J'étais dans un quartier à Épinay-sur-Seine et il y avait un jeune qui faisait médecine et l'autre était en maths à Jussieu. Et tous ces camarades.
Ceux-là, ils vont être bientôt dans le Gotha noir.
Voilà. Donc, dans le quartier, il y avait des gens de très faible niveau scolaire. Et j'ai quand même posé la question, mais comment tu as fait pour faire médecine? Il m'a dit, mais ma mère était médecin en Guinée. Donc, ce garçon avait déjà tout ce background culturel et son père était ingénieur agronome. Donc, ils avaient déjà cela. Si vous n'avez pas ces conditions, ces deux conditions de la famille et l'environnement proche de l'école où vous fréquentez, alors c'est l'échec assuré. Moi, je peux témoigner parce que on connaît les taux d'échec dans les zones urbaines sensibles où la majorité des jeunes qui habitent sont noirs. Et aujourd'hui, même l'État français reconnaît qu'il faut mettre des moyens dans ces zones pour augmenter le niveau scolaire.
Vous nous appelez les voisins, les voisines, où que vous soyez dans le monde, si vous souhaitez participer au débat sur les élites noires en France. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Bonjour, on accueille Awa qui est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bonjour Awa. Mmh. Nous sommes ravis d'accueillir
Bonjour,
une voisine.
Bonjour Madame Emmanuel.
Soyez la bienvenue, Awa. Vous souhaitez nous parler des élites noires au Québec. Alors, je ne sais pas, vous vivez au Burkina Faso, vous avez vécu au Québec ou peut-être vous avez de la famille au Canada?
Non, je suis juste au Burkina Faso dans le cadre de la coopération internationale. Mais votre émission m'a interpellée, en particulier le Gotha noir, qui répertorie justement les réussites parce qu'au Canada aussi, je vis au Canada, je suis canadienne d'origine africaine.
Ah, d'accord.
Et il y a cette... le Canada est un pays, comme vous le savez, très ouvert à la diversité, qui le cultive et qui valorise la diversité. Et il y a par exemple du côté anglophone, Who is Black, qui est c'est-à-dire... sont les Noirs qui ont réussi au Canada, ou bien du côté du la mois de l'histoire des Noirs qui est promu par la ville de Montréal, la mairie donc, qui chaque année répertorie 12 personnalités qui ont réussi dans différents domaines, pas nécessairement universitaires ou intellectuels, mais ça peut être des entrepreneurs, et qui fait un calendrier, montre dans leur...
Je suis désolée, on a un problème de ligne téléphonique, Awa, mais je crois qu'on a compris l'essentiel de votre témoignage, hein, de canadienne originaire du Burkina, si j'ai bien compris. Mais il y a une valorisation institutionnelle, politique des minorités au Canada. en France? Est-ce qu'il faut quitter la France pour briser le plafond de verre, Mamadou Gueye, Guylaine Yersin?
Non, je pense pas qu'il faille quitter la France, mais simplement, il faut absolument que la France mette tout un système pour la valorisation, mais la valorisation de toute, je dis, de toute diversité, même si je suis pas très amie avec ce mot en tant que tel, puisqu'on est toujours divers par rapport à quelqu'un.
Les minorités, mais simplement,
les minorités, les nous, mais c'est mettre en avant l'excellence, c'est ce qu'on dit. Et effectivement, je connais bien le Canada puisque je préside aussi l'association française des petits débrouillards et c'est une essence du Canada. Et par rapport à l'éducation, et comme disait Édouard Glissant, c'est où s'ouvrir sur le tout le monde.
Oui, d'accord, mais le gotha noir au Canada, on est plus à l'aise avec cette démarche-là qu'en France, quand
on
même.
On est plus à l'aise.
Ce bouquin-là, vous éditez, c'est pas facile en France.
En France, c'est difficile, surtout comme on le disait tout à l'heure, l'utilisation.
Vous avez trouvé un éditeur au départ?
L'utilisation. Non, vous savez, d'une façon, le monde de l'édition est un petit peu difficile en France, comme vous le savez, c'est pas spécifiquement pour de tels ouvrages. On a mis en œuvre un système un peu particulier pour l'édition. Mais ce qui est important, c'est que, effectivement, l'utilisation de noir met en avant déjà gotha noir, puisque vous savez que le terme gotha était plutôt attribué pour une autre communauté. Et donc, le fait qu'on l'utilise et qu'on s'est interrogé par rapport au club pour dire gotha, ça fait communautarisme. C'est vrai qu'en sens, en France, compte tenu de l'universalisme, l'égalité, mais il faut être conscient que l'égalité, la fraternité, on adore ces mots-là, on en est tous porteurs, mais simplement, c'est pas la réalité, c'est divertinant, c'est vrai. En même temps, il faut positiver en disant qu'on doit y arriver, on est dans un monde pluriel et on doit. Je rappelle quand même que la phrase de l'Europe, c'est quand même unie dans la diversité. Donc, il faudrait un peu qu'on mette en France en exergue ce mot et qu'on mette en avant cette diversité, tant à l'Assemblée nationale, au Sénat et autres. Et dans les grandes entreprises, je rejoins ce que disait tout à l'heure et je finis là-dessus, Henrique. Je crois que c'est Henrique ou Cher, je sais plus. Dans les grandes entreprises, je dirais que même si ça va pas vite, ça va plus vite dans le monde dans le monde économique souvent que dans le monde politique. Enfin,
sachant qu'on n'a pas vraiment de statistiques, hein. Donc,
non, mais bon, quand même, moi, je navigue quand même depuis un certain nombre d'années dans ce monde-là.
Très peu d'études chiffrées, faut bien reconnaître.
Oui, mais enfin, je navigue
rien.
Et comme c'est visible, on peut le dire.
Moi, je rebondis sur la question de la valorisation de la diversité. C'est un vrai sujet en France. Je trouve que depuis trop longtemps, on a honte de cette histoire collective que nous avons. Je prends un exemple concret. Prenons les distinctions honorifiques de la République. L'Ordre national du mérite ou la Légion d'honneur. Ce sont des distinctions qui sont phagocytées par des petits cercles. C'est sur proposition d'un ministre ou à la demande même de certaines personnalités. Je pense que c'est un outil. Alors moi, j'y accorde aucune importance.
On a bien Dany Laferrière à l'Académie française, rappelons-le.
Oui,
tout de même.
Oui, il y a des avancées, mais je pense que ça fait partie des leviers qui pourraient permettre à un pays comme la France de raconter une autre histoire et
de donner
encore. Mais
vous iriez jusqu'à dire qu'il faudrait des quotas, par exemple, en tout cas, alors, commencer à compter.
Alors justement, à chaque fois, on retombe dans cet autre extrême. C'est un choix discrétionnaire aujourd'hui qui est fait par des ministres, qui sont faits par des cabinets ministériels, qui sont faits par des préfets, par exemple, qui peuvent identifier des acteurs, un pompier, une institutrice, etc.
Est-ce qu'aujourd'hui, alors qui est en lien avec les entreprises, très rapidement, la croissance du continent africain et la crise économique en France, qu'est-ce que ça change pour les diplômés noirs? Est-ce que ça crée un appel d'air, des entreprises qui, tout d'un coup, s'intéressent davantage à ces diplômés noirs? Est-ce que ça les renvoie pas à l'option d'un retour? Enfin, un retour, sauf que s'ils sont nés en France, retourner, c'est pas retourner, mais est-ce que ça les rend inconfortables par rapport à cela? Comment vous voyez Mamadou Gueye?
Ils immigrent dans le pays d'origine de leurs parents. Ouais. J'ai quelques amis avec qui j'étais au lycée et à l'université, qui rentrent, travaillent au Sénégal, ils trouvent une qualité de vie.
Qui rentrent ou qui arrivent.
Une reconnaissance, qui arrivent, ils immigrent et il y a un mouvement.
Pas toujours réussi d'ailleurs sur ce mouvement-là,
alors,
contrairement à ce qu'on peut imaginer.
La dernière génération y arrive mieux que les parents.
Ferdinand Ezembe, sur ce lien avec le continent africain auquel on les renvoie toujours, mais est-ce qu'ils en ont tellement envie?
Je crois qu'on n'a pas beaucoup de statistiques. Quand on voit le taux de chômage des élites en Afrique noire, le taux de chômage des diplômés, je suis très étonné que ceux qui ont fait des études en France trouvent facilement du travail là-bas. La plupart qui sont partis déchantent très vite parce que les conditions de réussite ne sont pas celles qu'ils trouveraient en Europe. Et moi, je suis vraiment très, très sceptique par rapport à même le taux de croissance dont on parle en Afrique. Il faut bien savoir de quoi on parle. Les taux de croissance, c'est pas qu'on embauche plus. C'est quand même des pays avec des taux de chômage.
Des économies de rente.
De rente, voilà, tout à fait.
Notamment c'est sur les matières premières.
Le taux de chômage au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, des jeunes diplômés est assez inquiétant.
On arrive à la fin de cette émission. En conclusion, je ne sais pas si vos parents vous disaient s'intégrer, c'est se fondre dans la masse. Mais vous, vous dites quoi, en tout cas, aujourd'hui, en fonction des générations auxquelles vous appartenez, Guy Lénian?
Écoutez, moi, je pense que s'intégrer, c'est surtout être soi-même. Hein. Vous parliez de l'ordre du mérite, la Légion d'honneur. J'ai l'ordre du mérite, j'ai la Légion d'honneur. J'ai toujours été moi-même. J'ai toujours été moi-même et je rebondirai quand même. Je rappelle que le continent africain, c'est 54 pays. S'il vous plaît, pas de généralité économique, c'est des pays très divers entre les pays anglo-saxons et les pays francophones. Il y a une vraie diversité et il y a beaucoup d'appels et une diaspora qui se débrouille.
Il nous reste quelques secondes, Ferdinand SMB.
Oui, je pense qu'il faut continuer le combat et que... Oh oui, il faut rester soi-même et imposer ses propres codes.
Mamadou Gueye.
Rester soi-même et s'interroger sur la responsabilité qu'on a vis-à-vis de la communauté nationale et de ce groupe-là. Et moi, je trouve cette démarche du Gotha très bien. Il n'y a pas de sujet de communautarisme.
C'est une entraide pragmatique.
C'est une entraide pragmatique. Ce sont des exemples de réussite.
Merci à tous les trois. Guylaine Yerso, Club Efficience, pour commander le Gotha noir de France. On peut le commander sur Internet. Hein.
Sur Internet
on a mis les liens sur la page. Oui. Ferdinand SMB, psychologue, votre dernier ouvrage, Les adolescents. Les noirs en France aux éditions Cartala, ça devrait être lu par tous les travailleurs sociaux enseignants en région parisienne et tous ceux d'ailleurs qui sont curieux intellectuellement en général. Mamadou Gueye, directeur de l'agence Nouvelle Cour qui aide les jeunes diplômés en communication issus de la diversité. Merci à toute l'équipe. Demain, merci. 7 milliards de voisins. Le consommateur a-t-il pris le pouvoir avec Internet et la baisse des prix due à la crise?